Biodiversité on Air, un magazine proposé par la Corlab, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.
Bonjour à toutes et à tous. Peut-on se former à la biodiversité dans les filières d'enseignement agricole ? Réponse : oui. En France, le ministère de l'Agriculture a mis en place depuis de nombreuses années des formations à la nature et à l'environnement dans le cadre de lycées agricoles. Concerne-t-elle pour autant les futurs agriculteurs et agricultrices de demain ? Nous en discuterons dans quelques minutes avec Armel Giry, chef de projet formation et acteur agricole à l'Office français de la biodiversité. Mais tout d'abord, direction Saint-Aubin-du-Cormier en Ille-et-Vilaine pour justement mieux connaître une formation gestion et protection de la nature au lycée agricole La Lande de la Rencontre. C'est un sujet de Lucie Loapre de Canal B, votre radio associative dans la région de Rennes.
Ah ouais, t'en as trouvé plein.
Là, il n'a pas mouillé le maillot pour les exhiber, il a mouillé les pieds là.
Oh, c'est quoi ?
Eh bien là, on a la preuve.
Génial !
Bravo !
Oh, génial !
Excellent !
On a la preuve que ces espèces, elles se reproduisent bien sur cette mare. Donc c'est pas uniquement
c'est beau.
Des visiteuses.
Incroyable.
Donc, trop beau.
Vous voyez ? Je m'appelle Loïs Morel, je suis formateur en BTS gestion de protection de la nature au centre de formation des apprentis de la Lande de la Rencontre, voilà, Saint-Aubin-du-Cormier en Ille-et-Vilaine. C'est des promotions qui sont variables puisque ils sont en apprentissage, donc en fait on ne fait pas de véritable sélection à l'entrée. Donc les promotions varient entre 8-10. Ça c'est relativement rare. En moyenne, c'est plutôt 15 à 20. Et cette année, un peu exceptionnelle, on a plus d'une trentaine d'étudiants en première année. Notre établissement s'appelle la Lande de la Rencontre. Et en fait, ça fait écho à la bataille qui a opposé les Bretons et les Français en 1488. Et le mot lande, au sens large, c'est une végétation, un paysage dominé par des végétations plutôt de broussailles. Au sens plus strict, on va restreindre ça aux végétations dominées par des bruyères. Alors on n'a plus véritablement de landes strictes, mais c'est un pays un peu de boisement, hein, de forêt. On a la forêt de Saint-Aubin-du-Cormier qui fait environ 800 hectares, qui est juste à côté. Et puis une alternance de prairies de fauche et de pâture avec un maillage bocager encore un peu serré. Et à ça, effectivement, on va y retrouver toute une biodiversité. C'est les termes très utilisés de biodiversité ordinaire. On a cortège d'oiseaux, de plantes, d'insectes qu'on retrouve un peu partout dans les campagnes, là où les millions ont été finalement un peu moins anthropisés, c'est-à-dire un peu moins de villes, un peu moins de grandes cultures.
Ah bah tiens, voilà une déprimée. C'est une déprimée, ça arrive.
Alors, le contenu des cours, sur la partie plutôt spécialisation, donc gestion, protection de la nature, eh bien, on pourrait imaginer trois axes, trois cœurs vraiment. Il y a déjà la dimension naturaliste, connaissance des écosystèmes, je dirais aussi reconnaissance, être en capacité d'identifier les espèces, les écosystèmes, d'acquérir une forme de vocabulaire pour décrire avec le plus de finesse possible les écosystèmes, les espèces, je dirais tout ce qui est non humain finalement. Une connaissance de la biodiversité qui est ensuite déclinée, valorisée, d'une part dans ce qu'on va appeler l'éducation de l'environnement auprès d'un certain nombre de publics, donc ça peut être des publics scolaires, ça peut être aussi grand public, donc il y a un véritable savoir-faire pédagogique. Et puis le deuxième pan, c'est plutôt soit dans des diagnostics purs, dans les types de métiers, on peut avoir par exemple des métiers type bureau d'études qui vont réaliser des études d'impact, donc là on a besoin d'essayer de comprendre un peu le fonctionnement de cet écosystème. Et puis il y a toujours cette question, au moins à l'époque actuelle où on est, de la conservation. Et donc il y a cette idée de toujours proposer à la société une analyse un peu de ce qu'on observe pour savoir si, en gros, moi ce que je dis souvent aux étudiants, est-ce que votre écosystème ou le paysage que vous observez, est-ce qu'il est dégradé, auquel cas il faut plutôt déployer des techniques de restauration, ou alors est-ce qu'il est plutôt en bon état, auquel cas il faut plutôt réfléchir à des mesures de protection, de conservation, qui ne sont pas toujours une mise sous cloche au sens où on va interdire les activités humaines, mais il y a une espèce de prise en considération des autres vivants qui sont là, et comprendre que nos paysages ne sont pas simplement des décors dans lesquels nos activités humaines peuvent se déployer.
La grande, vous avez réussi à l'attraper ?
Non. Elle ne vient pas beaucoup vers nous en fait. Elle reste au-dessus de la mare. Il faudrait
une
combi
jumelles,
et
une fois,
se mettre les pieds
fait,
dans l'eau. T'as vu, elle a touché l'eau.
Là, on est sur des lagunes qui sont juste à côté du CFA. Et dans ces lagunes, en fait, il y a énormément de joncs énormément d'ajoncs aussi. Enfin, c'est une flore très diversifiée et qui n'est pas altérée, en fait. C'est-à-dire que personne ne la touche. Et là, on est particulièrement sur un cours, en fait, où on s'intéresse aux libellules. On les photographie, on les observe. Après, on va les identifier. Et puis, le but, c'est d'avoir des données, un recensement de toutes les espèces de libellules et de demoiselles qu'on a autour. Bah, moi, c'est Ilona Lidurin. Je suis actuellement en BTS GPN à Saint-Aubin-du-Cormier. Donc en alternance sur 2 ans. Moi, je suis en alternance au CPIE de Forêt de Brocéliande.
Centre permanent d'initiative pour l'environnement.
Une alternance plutôt dirigée vers l'animation, parce que mon but, c'est de faire de l'animation naturaliste, on va dire. Et dans le très long terme, moi, j'aimerais bien ouvrir une ferme pédagogique pour que les gens puissent prendre conscience que on a un environnement exceptionnel autour de nous, quoi. Je suis belilloise et c'est une nature exceptionnelle qu'il y a là-bas, en fait. Et c'est une fois que je suis arrivée sur le continent, nous on dit ça, que j'ai remarqué qu'en fait, tout le monde n'a pas conscience de tout l'environnement qu'on a autour et à quel point il est important, en fait.
On a une part de nos étudiants qui vont travailler dans des collectivités. Ça se développe de plus en plus. Des communautés de communes, des communes. Parce que comme depuis longtemps maintenant, on avait des services espaces verts, on commence à voir émerger des services un peu environnement, justement pour prendre en compte ce patrimoine naturel. Ça peut être aussi les départements, évidemment, qui en plus ont des politiques spécifiques. Je pense notamment aux ENS, espaces naturels bleus sensibles, dont l'Ille-et-Vilaine, je crois, est un des plus gros services de France. Des associations de protection de la nature traditionnelles, comme par exemple Bretagne Vivante, le groupe mammalogique breton. Mais on peut aussi avoir des associations qui font plus de l'éducation à l'environnement, parfois des fermes pédagogiques, des bureaux d'études aussi. Mais de plus en plus, on se rend compte qu'on peut avoir des contrats d'apprentissage ou des missions qui ne sont pas forcément des structures qui font de la protection de la nature à la base, mais qui tout d'un coup se retrouvent face à une problématique qui va nécessiter les savoir-faire et les savoirs de la gestion et de la protection de la nature. Il y a une réforme en 2011 du BTS qui invite à la pédagogie par projet. Et donc, ils vont avoir de plus en plus de commandes qui viennent du monde extérieur, effectivement. Donc, ça peut être toutes ces structures dont je parlais tout à l'heure. Sur cette année, on a eu pas mal de collectivités, donc des communautés de communes, qui mobilisent les outils ABC, donc ce sont les atlas de biodiversité communale, qui sont en fait une manière de parler de biodiversité et d'essayer de mieux l'intégrer dans les documents d'urbanisme, et puis de faire de la communication auprès du grand public. Pour les étudiants, c'est l'occasion de porter un projet de A à Z. Ça leur permet d'avoir des temps où ils peuvent visiter un terrain avec l'idée de dire, tiens, je vais essayer d'inventorier les oiseaux. Par exemple, quelques années, on avait fait un atlas à l'échelle de la commune des rapaces nocturnes. Il va devoir mobiliser un certain nombre d'outils aussi techniques pour restituer un peu tout ce qu'il va pouvoir observer. Je pense par exemple aux outils cartographiques qui sont de plus en plus mobilisés, même depuis un certain nombre de temps. Cette année, on a eu un programme avec une autre collectivité et le groupe mammalogique breton pour créer des panneaux pédagogiques parce que la loutre d'Europe est une espèce qui revient aussi sur le Couesnon. Et aussi pour créer par exemple ce qu'on appelle des catiches, des zones de refuge un peu de potentiel de reproduction pour elles. Donc ils vont arriver en fait dans un réseau d'acteurs et eux vont apporter, je dirais, tout leur enthousiasme qui est assez spécifique aussi aux années d'études.
Oui, non, mais là, les exuvies sont compactes avec la domaine plus ou moins aplati. Bah oui, rien.
Ouais, il est carrément aplati.
Donc en fait, avec toutes celles qu'on a, on a soit le choix entre des Gonfidae
et des Achniidae.
Je m'appelle Antoine Jourda, je suis étudiant au CFA de Saint-Aubin-du-Cormier, en alternance chez les Petits Débrouillards à Bordeaux. Et j'ai essayé de me diriger plutôt vers une carrière d'animateur nature. Et par la suite, de me servir de tout ça pour peut-être construire plus tard un écolieu. Je pense que tout le monde devrait peut-être se diriger vers une pensée qui se tourne vers l'environnement. Parce que je pense qu'il ne faut plus qu'on soit dans l'inaction.
C'est un métier de passionné. Parce que finalement, reconnaître les libellules, reconnaître les sauterelles ou les plantes, c'est accessible à tout le monde. Ce sont des psychologues américains qui ont mis en évidence que des enfants d'une dizaine d'années sont capables de reconnaître plusieurs centaines, voire un millier de logos de grandes marques, et que dans le même temps, ils n'étaient pas capables de reconnaître 10 feuilles d'arbres de leur paysage. Mais on voit bien que là, on détourne une capacité de notre cerveau qui est un héritage évolutif, parce que tout vivant a besoin de reconnaître les autres espèces, lesquelles on peut consommer, lesquelles vont nous permettre de nous soigner, lesquelles sont potentiellement des dangers, etc. Donc c'est vraiment accessible à tout le monde. Il faut juste choisir d'y allouer un peu de temps, un peu d'énergie.
À l'instant, ce reportage au lycée agricole La Lande de la Rencontre en Ille-et-Vilaine avec cette formation gestion et protection de la nature. Un reportage signé Lucie Loapre de Canal B. Et pour aller plus loin sur l'importance de la formation à la biodiversité dans le cadre de l'enseignement agricole, nous sommes en ligne aujourd'hui avec Armel Giry, chef de projet formation et acteur agricole à la direction acteurs et citoyens de l'Office français de la biodiversité. Armel Giry, bonjour.
Bonjour.
Alors, tout d'abord, comment réagissez-vous au reportage que l'on vient d'entendre ? Cette formation est-elle assez emblématique finalement de ce qui se pratique dans le cadre de l'enseignement agricole au niveau national ?
Eh bien, je trouve toujours très, très intéressant et très, très passionnant de voir ces jeunes et ces professeurs passionnés. Mais ce que je trouve le plus emblématique, c'est que vous y intéressiez, que vous ayez été les voir et les enregistrer, parce que ces formations existent depuis très longtemps, mais elles sont mal connues et je trouve très bien que vous contribuez à les faire connaître. Et peut-être que le fait que vous ayez été les voir et les interviewer est du coup emblématique peut-être d'un renouveau de l'intérêt pour l'éducation à l'environnement.
Comment on explique que ce soit si méconnu et qu'il n'y ait pas finalement, comme vous le dites, assez d'intérêt par rapport à ces formations dans le cadre de l'enseignement agricole ?
Alors déjà, le BTS GPN, donc il a un demi-siècle.
Oui. Hein,
et il a été créé en 70-71 à Neuvik, en Corrèze. Et les années 70, c'est dans la mouvance de la création des politiques de protection de la nature qui ont été mises en place à l'époque par des grands politiques, des grands serviteurs de l'État, en ramenant aussi des expériences des États-Unis et des Anglais qui aiment beaucoup la nature. Et je vais juste dire quelques dates, parce que c'est le contexte qui aujourd'hui nous revient un petit peu finalement en 2023. En 69, c'est le premier parc naturel régional, en Bretagne d'ailleurs. En 70, la création de la formation. En 71, création du ministère de l'Environnement. 73, premier parc national. 75, conservatoire du littoral et première conservatoire botanique nationale. Et 76, la loi de protection de la nature. Donc vous voyez, en quelques années, tout se met en place en matière de protection de la nature, dont ces formations pour former à des animateurs nature et des gens qui connaissent la nature, l'écologie, les écosystèmes, comme a très bien raconté le professeur. Donc, ça a mis du temps à se développer, donc dans les années 90, mais aujourd'hui, il y en a beaucoup, beaucoup. Alors, pourquoi c'est méconnu ? Je pense que c'est parce que l'enseignement agricole est très mal connu. Très mal connu. La plupart des citoyens connaissent bien l'éducation nationale. Mmh. En théorie, en quatrième, troisième, on commence à faire des stages, à faire réfléchir les jeunes sur leurs orientations, leur futur métier. Et on leur propose différentes orientations. Mais il est très, très rare que les conseillers d'orientation les professeurs de l'éducation nationale donne l'information sur l'enseignement agricole qui est piloté par le ministère de l'Agriculture et non pas de l'Éducation nationale. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que c'est mal connu. Et puis les lycées agricoles, par définition, ils sont en zone rurale. Ils sont tous en zone rurale. Et 80% de nos citoyens habitent en zone urbaine. Donc, en fait, voilà, c'est pour ça. Et puis, je pense aussi que ceux qui savent qu'un enseignement agricole existe, ils n'imaginent pas que l'enseignement agricole porte des filières environnementales.
Oui.
Or, c'est une bonne partie des formations de l'enseignement agricole sont des formations environnementales. Donc, il y a le BTS GPN que vous avez mis en exergue dans votre interview, mais le bac pro GMNF, gestion des milieux naturels et de la faune. Il y a un BTS gestion forestière, il y a un BTS gestion et maîtrise de l'eau, un BTS aménagement paysager, des gens qui travaillent dans les jardins publics. Donc vous voyez, il y a pas mal de filières environnementales.
Quel est votre rôle à l'Office français de la biodiversité, justement pour favoriser ces formations à la nature, à la biodiversité, dans le cadre de ces enseignements agricoles ?
Eh bien, donc moi je fais partie d'une institution, hein, je représente une institution qui est l'OFC. Et donc j'ai développé un partenariat avec le ministère de l'Agriculture et notamment les services qui sont en charge de l'enseignement agricole et on a une convention, un partenariat depuis 4 ans maintenant pour essayer d'inclure plus de biodiversité, non pas dans les filières environnementales qui sont très bien faites, qui sont très nombreuses, mais nous ce qu'on essaye de faire, c'est plutôt de mettre plus de biodiversité dans les filières agricoles, c'est-à-dire celles qui vont faire former non pas les métiers de gestion des espaces naturels ou des jardins ou de l'animation nature, mais ceux qui vont travailler dans les métiers agricoles, comme salariés agricoles ou dans les exploitations agricoles ou dans tous les métiers relatifs à l'agriculture, que ce soit les travaux agricoles, les machines, etc. Et là, c'est des filières agricoles. Alors, même si dans les programmes, depuis quelques années, il y a de la biodiversité, dans les faits, on a du mal à évoluer vers une agriculture plus agroéculogique, quoi, qui prenne en plus en compte la biodiversité, voire qui utilise la biodiversité, comme les régulations naturelles, etc. Et c'est dans les programmes, mais il y a quand même une inertie des pensées. Et le milieu agricole ne favorise pas, a tendance à reproduire ce qui a toujours été fait, l'agriculture actuelle, conventionnelle. Et il est difficile, vraiment difficile de faire évoluer les choses. Et donc, nous, l'OFB, alors je ne sais pas si on a beaucoup de... Beaucoup d'impact, mais en tout cas, on s'y emploie et voilà, c'est ce qu'on essaye de faire directement avec le ministère de l'Agriculture, puisque c'est lui qui est responsable du ministère agricole.
Pour qu'on comprenne bien, ces formations dont on parle, est-ce qu'elles font partie intégrante du cursus d'enseignement agricole ou est-ce qu'elles sont plutôt proposées finalement en parallèle ?
C'est des filières parallèles, c'est-à-dire que l'enseignement agricole, c'est un enseignement majoritairement, très très majoritairement technique et professionnel, qui forme à des métiers. Et donc, les filières environnementales conduisent à des métiers environnementaux. Les filières agricoles conduisent à des métiers agricoles. Et donc, les métiers auxquels vont naturellement les gens qui vous avez interviewés, ben c'est des métiers, alors en partie, soit animation nature, éducation à l'environnement, soit des métiers gestion des espaces naturels ou semi-naturels, mais en tout cas, parfois horticoles, mais pas forcément en lien avec la production alimentaire, par exemple. Donc, en fait, c'est des filières parallèles parce que c'est des métiers, des catégories de métiers différents.
Et ne faut-il pas quand même regretter que, parce qu'on a compris, c'est un petit peu en silo finalement, soit on s'oriente plutôt nature, soit on s'oriente plutôt technique agricole. Bon. Est-ce qu'il ne faut pas regretter justement que cette éducation à l'environnement, à la biodiversité, ne soit pas finalement des matières un peu obligatoires dans justement le cursus technique agricole, qu'on l'intègre une fois pour toutes définitivement et qu'il soit dispensé à tous les futurs agriculteurs du pays, vu les enjeux actuels ?
Alors, donc dans les filières agricoles, en tout cas jusqu'au niveau du bac pro, bac général, bac technique, il y a des cours de biologie écologie.
Oui.
Donc ils ont cette formation en écologie, mais à côté ils ont des cours d'agronomie, des cours de zootechnie, etc. Ce qui manque parfois c'est du travail interdisciplinaire ou des projets ou de la pédagogie de projet où on ferait travailler ensemble les filières environnementales et les filières agricoles ou des jeunes sur des projets qui mobilisent à la fois des connaissances écologiques et des connaissances agronomiques ou zootechniques. C'est ça qui manque. C'est plutôt la transversalité qui manque et puis et l'interdisciplinarité à la fois pour la sensibilisation et à la formation technique. D'accord, et être sensibilisé, c'est pas forcément être devenu compétent.
Donc l'idée, en tout cas, c'est d'essayer de petit à petit de faire mieux intégrer ces enjeux de la biodiversité, en tout cas dans toutes ces filières, qu'elles soient techniques ou qu'elles soient dirigées plus naturellement vers l'éducation à l'environnement. Ce sera l'idée de peut-être accroître tout cet enseignement, toutes ces connaissances sur la biodiversité.
Oui, et puis peut-être qu'il faudrait encourager les jeunes qui ont envie de faire de la nature, d'intégrer des filières agricoles pour après faire de l'agroécologie. Parce que les jeunes qui sont, c'est très passionnant et très émouvant votre reportage et on peut concevoir que pour les jeunes c'est très passionnant. Mais s'ils se sentent responsables, enfin s'ils veulent agir, avoir un impact sur la biodiversité, eh ben quelque part, de façon un peu paradoxale, il vaudrait mieux qu'ils intègrent des filières agricoles pour changer l'agriculture de l'intérieur que d'aller travailler dans les espaces naturels protégés qui représentent à une surface du territoire beaucoup moindre. Et la biodiversité ordinaire, comme disait une des personnes que vous avez interviewées, la biodiversité ordinaire, elle est dans les espaces agricoles qui correspondent à 50% de la surface du territoire français. Donc 50% de la surface du territoire français est sous influence de pratiques agricoles. Et c'est là qu'est la biodiversité ordinaire, les oiseaux ordinaires, les plantes ordinaires, les insectes ordinaires, etc. Et qui pâtissent beaucoup, qui sont en forte décroissance.
C'est finalement dans ce sens-là qu'il faudrait faire des efforts, c'est-à-dire intégrer plus de connaissances de la biodiversité sur les filières techniques pour ceux qui vont devenir éleveurs, agriculteurs. Et attirer plus de jeunes finalement vers les métiers agricoles purs pour en leur disant mais vous allez aussi apprendre à mieux respecter la biodiversité et à l'appliquer sur le terrain.
C'est... Voilà, et surtout changer. Donc en fait, il y a la biodiversité et puis alors mettre de la biodiversité dans les formations agricoles, mais mettre de l'agroécologie. Donc c'est l'agroécologie, c'est des pratiques, c'est un ensemble de concepts scientifiques, techniques, de pratiques connues, hein, qui permettent de faire une agriculture plus respectueuse de la biodiversité, de remplacer les pesticides par exemple par de la régulation naturelle, par des prédateurs naturels. Tout le monde connaît l'histoire du puceron et de la coccinelle, mais favoriser des régulations naturelles qui diminuent l'utilisation des pesticides et des biocides qui empoisonnent la terre, l'eau, le ciel, l'air et notre santé, ça passe par mobiliser ce qu'on appelle dans notre jargon la biodiversité fonctionnelle, c'est-à-dire la capacité de la biodiversité, en tout cas des phénomènes écologiques, à faire des régulations naturelles qui pourraient contribuer à une agriculture plus favorable à la biodiversité. Et la biodiversité, c'est aussi la pollinisation, par exemple. Et en fait, la pollinisation, c'est un fonctionnement écologique. Hein. Et en même temps, c'est un service rendu à l'agriculture. Et donc, si on détruit les pollinisateurs, les agriculteurs, ou le sol, ou les vers de terre, c'est les agriculteurs et l'agriculture et la productivité agricole et le chiffre d'affaires agricole qui en pâtissent les premiers. Donc tout n'est pas si séparé, vous voyez.
Quels sont les enjeux là, d'arriver à vraiment plus introduire toutes ces connaissances de biodiversité dans les filières agricoles? Il y a des enjeux majeurs, il y a même on peut parler d'urgence aujourd'hui, si on veut s'en sortir un jour et arriver à faire une agriculture beaucoup plus responsable.
Alors, il y a un concept qui est en train de monter, ça s'appelle One Health. One Health, c'est la santé globale de la faune, de la flore et de l'être humain. Et l'enjeu, c'est ça, c'est-à-dire aller vers une agriculture et une alimentation, parce que maintenant, de plus en plus, d'ailleurs maintenant, le ministère de l'Agriculture, je ne sais pas si vous avez remarqué, s'appelle, il s'est appelé ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Maintenant, c'est Agriculture et Souveraineté Alimentaire. Donc, ça fait quand même quelques années que l'alimentation revient. Et c'est par le levier de l'alimentation aussi, hein, c'est aussi nos comportements alimentaires qui nous définissent et qui créent des marchés solvables pour les agriculteurs qui veulent faire de l'agriculture vertueuse. Mais donc l'enjeu, c'est la santé des écosystèmes, la santé des animaux et des plantes et la santé humaine, et donc des pratiques alimentaires et des pratiques agricoles qui vont dans ce sens-là. Et la bonne santé d'un écosystème, eh bien c'est quand un écosystème est en bonne santé, quand toutes les fonctions écologiques de compétition, prédation, une grande diversité des organismes vivants s'expriment dans un écosystème, eh bien, il est plus résilient, il est plus résistant aux pollutions, aux sécheresses, aux changements climatiques. C'est ça, un écosystème en bonne santé, bah, il a multi-bénéfices pour tout le monde, pour nous et puis pour la faune, la flore.
Vous venez de décrire ce concept Wenhals. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour qu'on aille beaucoup plus vite vers cette direction, finalement? Est-ce que c'est quoi? C'est une volonté politique, nationale, internationale? Est-ce que c'est véritablement de se remettre en cause? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que, finalement, la biodiversité, l'agriculture, la santé des hommes, la santé de la nature, des écosystèmes aillent ensemble? C'est peut-être une question un peu utopique, mais qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour qu'on y arrive et qu'on mette un coup d'accélérateur là-dessus?
Vous savez, on parle des 5 pouvoirs. Donc, il y a le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir des médias. Et donc, les médias, comme vous, vous avez un rôle. Le pouvoir du citoyen. Donc, en fait, ce qui manque, c'est que ça bouge au niveau de ces différents pouvoirs et au niveau politique, au niveau des acteurs économiques. Parce que c'est quand même le pouvoir. On est dans une société de production, consommation, c'est quand même un peu aberrante, hein, parfois. Les schémas de consommation, production, ça va du consommateur au producteur. Donc, les producteurs, ils bougent. Les filières de production et les industries agroalimentaires bougent. Les agriculteurs, ils sont tenus par les industries agroalimentaires. En fait, le plus fort PIB qui est produit par la France en matière d'agriculture, il n'est pas par les agriculteurs, il est par les industries agroalimentaires. Donc les industries agroalimentaires, c'est elles qui commandent, qui achètent aux agriculteurs un blé de telle et telle façon. Donc c'est un regard qu'il faut changer, un regard et un type de consommation. Pousser les industriels à bouger, pousser les politiques à bouger, pousser les médias à bouger. Voilà, les associations jouent un rôle important aussi. Les médias énormément. Hein.
Et en plus, en France, on est plutôt en pointe sur les connaissances en termes de comment agir pour améliorer la biodiversité et aussi sur le savoir transmettre. Donc, est-ce que c'est pas un peu dommage des fois que on soit en pointe dans notre pays sur comment connaître et savoir transmettre la biodiversité et qu'on ne l'applique pas finalement de façon globale et transversale dans toutes les parties de l'économie de notre pays?
Il y a quelque chose qui s'appelle les lobbies. Et quand on a dit ça, on y dit beaucoup de choses.
En tout cas, sans désespérer par rapport à ça, et je vous remercie de votre franchise, pour nos auditeurs, y compris bien sûr ceux qui se destinent, et en particulier ceux qui se destinent vers le métier d'agriculteur, est-ce que vous auriez peut-être des exemples emblématiques déjà en France, en dehors de celui qu'on a entendu dans le reportage tout à l'heure, de formation où on pourrait se diriger, et peut-être des sites ou des documents de référence qui permettraient peut-être à de futurs éleveurs, agriculteurs ou simplement des personnes qui veulent être en capacité de mieux connaître la nature et la transmettre. Est-ce que vous auriez quelques directions à nous donner?
Déjà, je trouve que le site de l'ONICEP est très bien fait. Le site du ministère de l'Agriculture a aussi toute une partie dédiée à l'enseignement agricole où on trouve tout. On trouve même les cartes. Il y a un site qui s'appelle SIGEA, donc le système d'information géographique de l'enseignement agricole, SIGEA.fr, qui est libre d'accès, où vous avez la cartographie de tout l'établissement d'enseignement agricole et ils ont tous des sites et on peut regarder, on peut chercher les filières de formation qu'il y a.
Armel Giry, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes chef de projet formation et acteur agricole à la direction acteurs et citoyens de l'Office français de la biodiversité. Je rappelle le site de l'OFB, www.ofb.gouv. Vous retrouvez toutes nos émissions sur votre radio associative locale de Bretagne, sur Radio Boa, leur émanation régionale, et puis également en podcast sur le site de la CORLAB, la coordination des radios locales associatives de Bretagne. À bientôt donc pour un nouvel épisode de notre magazine dédié aux actions en faveur de la biodiversité en Bretagne. Et d'ici là, prenez soin de vous et donc prenez soin de la planète.
C'était Biodiversité on Air, un magazine proposé par la CORLAB, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.